Où allons-nous nous tenir? Dans le parvis ou dans l'autel? Apocalypse 11, versets 1 et 2. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, Lève-toi, y mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car elle a été donnée aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Il y a quelque chose de remarquable, c'est que dans le temple de Dieu, il y avait ce qu'on appelait un parvis, une place où que la foule pouvait s'approcher avant d'arriver à l'autel. Parce que l'autel, c'était le centre du parvis. Il y avait un autel. Puis les gens devaient passer par le parvis pour arriver à l'autel. Et de l'autel, ils entraient dans le lieu très saint, dans le lieu saint. Mais ici, il est dit à Jean de mesurer le temple, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur ne le mesure pas. Laisse-le de côté. Puis il y a là une image pour nous autres. L'autel, bien sûr, ça parle de la croix de Jésus-Christ. Parce que l'autel, c'était le symbole de la croix de Jésus-Christ. Quand il dit « mesure le temple, l'autel et ceux qui y adorent », parce que l'adoration vient quand on se tient à l'autel, à la croix de Jésus-Christ. C'est là que se trouvent ceux qui adorent, à l'autel. Mais ceux qui se tiennent juste dans le parvis, juste loin de l'autel, qui ne se tiennent pas proche de l'autel, proche de la croix, ceux qui font juste se tenir dans le parvis. C'était une partie du peuple de Dieu qui se tenait dans le parvis, juste un peu loin de la croix. Ça dit, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il va être foulé aux pieds. C'est exactement l'image que Jésus a prise quand il a parlé des vierges folles puis des vierges sages. Les vierges folles, il a dit, fermez la porte, laissez-les de côté, laissez-les en arrière. Laissez-les être foulés, parce que c'est ça qui va arriver avec les vierges folles. Ils vont te laisser de côté, ils vont te laisser en arrière, puis ils vont être foulés par les nations, tandis que les vierges sages vont rentrer à l'encontre de leur époux. Mais on voit la différence entre une vierge sage et une vierge folle. Une vierge sage se tient à l'autel, à la croix, parce que là, c'est sa source, la source de sa vie pour elle. Elle sait que l'autel, c'est la source de sa vie. Puis en même temps, elle n'a pas peur de la croix. Elle n'a pas peur de porter sa croix et de marcher à la suite de Jésus. Puis elle adore. Parce qu'elle sait que là, elle a perdu sa vie à l'autel. Mais ceux qui ne veulent pas perdre leur vie à la croix se tiennent dans le parvis. Hein, ceux qui ne veulent pas perdre leur vie à Jésus, puis adorer. Parce que quand tu vas à la croix, que tu sais que tout est accompli pour toi, mais il y a un retour qui est demandé, c'est toi-même, donne-toi à Jésus, puis demeure là, en adoration. Parce que c'est la seule chose qui reste à faire, c'est adorer. Mais il y a des gens qui restent juste dans le parvis, juste dans la louange, mais qui ne rentrent jamais à l'autel, qui ne vont jamais à l'autel pour vraiment adorer. Parce que Dieu veut nous faire sortir de nous une adoration en esprit et en vérité. Puis c'est seulement à l'autel. C'est ça qui est mesuré par Dieu. Dans Ézéchiel, une année, Dieu a dit à Ézéchiel, il dit, va parcours la ville, puis marque d'un sceau ceux qui m'appartiennent. Dieu mesure ceux qui lui appartiennent. Il va tester, regarder ceux qui lui appartiennent, puis là, il les marque d'un sceau. C'est ça qu'il dit, mesure le temple, l'autel et ceux qui adorent. Mesure ceux qui se tiennent à la croix, puis mets-les de côté. Eux autres sont à moi. Les autres qui se tiennent juste dans le parvis, les vierges folles qui se tiennent dans le parvis seulement, Laisse-les de côté. Ils ne m'appartiennent pas. Ils ne sont pas à moi. C'est une image qui est très forte, mais ça parle du retour de Jésus. Puis c'est ça que Dieu va faire. Parce qu'Apocalypse 11, c'est juste avant l'enlèvement. C'est juste quelque chose qui se produit avant l'enlèvement. Parce qu'après ça, les vierges sages sont enlevées avec leur époux. Mais les vierges folles sont laissées de côté. La porte est fermée. Là, ils sont foulés aux pieds. C'est ça, l'enlèvement, c'est l'enlèvement de l'Église. Ouais. C'est la promesse glorieuse que Dieu nous a faite, qu'un jour, il nous prendra avec lui, mais qu'il a demandé à tous les chrétiens qui a appelé à cet enlèvement-là, hein, que Dieu nous prend et nous transforme un instant, c'est-à-dire au son de la dernière trompette, en un instant, nous allons être enlevés et transportés dans les airs avec le Seigneur. Mais il y a une condition, c'est se tenir à l'autel. Parce que c'est seulement les vierges sages, dans Matthieu chapitre 25, c'est seulement les vierges sages qui entrent dans le parvis, qui entrent dans le lieu très saint avec Christ. Les autres, les vierges folles, sont restées en arrière. Il y a là une image très forte et très vraie. Psaume 84, le verset 1 à 4. Psaume 84, le verset 1 à 4. Au chef des chantres sur les psaumes, sur les guitites des fils de Corée. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve un nid, une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées. Tes autels, éternel des armées. Mon roi et mon Dieu. Il parle du nid, de la place où l'hirondelle est en sécurité, le passereau trouve une maison. C'est quoi ma maison? Tes autels. C'est plus que le parvis, c'est tes autels. Ça symbolisait la croix de Jésus-Christ. C'est ma maison, c'est la place où que je demeure, où que moi-même je trouve la vie, où je meurs à moi-même et où je reçois la vie. C'était le nid que David voulait habiter. Un moment donné, il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, abriter sous ses ailes. Parce que ça symbolisait les ailes du chérubin qui se tiennent dans le lieu très saint. L'autel donnait accès à ce lieu très saint-là. La croix de Jésus-Christ donne accès à ce lieu très saint-là. C'était la place que David avait appris à demeurer et à trouver. Il dit, mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. La place aimable, agréable, la place qu'il voulait demeurer toute sa vie. C'était à cette place sainte-là, à l'autel, parce que là, la vie de Jésus peut couler sur nous. C'est le lieu de rencontre que Dieu a avec nous. C'est le lieu de communion que Dieu a avec nous. C'est le nid de Dieu. L'autel, c'est la chambre nuptiale où Dieu, où Jésus veut nous rencontrer. C'est la place de rencontre de nous avec Dieu. Exode 29, le verset 38 à 43. Exode 29, verset 38 à 43. Ça parle de l'autel. Il dit, voici ce que tu offriras sur l'autel. Deux agneaux d'un an, chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Tu offriras avec le premier agneau un dixième d'effort de farine, de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile, d'olive concassée et une libation d'un quart de hin de vin. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Voici l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Où ça? À l'autel? C'est le lieu de rencontre. C'est le lieu de rencontre. La chambre nuptiale de Christ avec nous autres, c'est l'autel. C'est le lieu privilégié où nous sommes connus de Dieu et Dieu nous connaît. Parce que rappelez-vous ce qu'il a dit aux vierges folles. Il a dit, je ne vous connais pas. Il a dit ça aux vierges folles, je ne vous connais pas. Parce que les vierges folles ne se tenaient pas à l'autel. N'avaient pas été jusqu'à l'autel. Ils avaient peur de l'autel. Ils avaient peur de la croix. Ils avaient peur d'y laisser leur vie, de laisser leur vie là. Ils aimaient mieux vivre leur vie. Dieu dit, je ne vous connais pas. Parce que vous n'avez pas été à l'autel. Vous n'êtes pas demeuré là. Parce qu'il dit bien au verset 43, « Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. » La présence sainte de Dieu est là à la croix. C'est sanctifié par la gloire de Dieu. C'est la place, le nid, la place où Dieu se fait connaître à nous et où nous connaissons Dieu. Et où nous sommes connus de Dieu. Parce que nous nous tenons à l'autel. C'est pour ça que Dieu a dit à Jean, l'apôtre, « Mesure le temple et l'autel, ceux qui adorent. » C'est juste ceux-là qui m'appartiennent. Ceux qui se tiennent juste dans le parvis, ils ne m'appartiennent pas. Je ne les connais pas. C'est grave, ça. C'est important. C'est pour ça que c'est si important, la croix. C'est si important, la croix de Jésus-Christ. Ne jamais oublier la croix. C'est le centre de notre vie. Le seul lieu sécure. Si nous revenons à la croix, le cœur brisé, et nous reconnaissons que là, Jésus a payé le prix pour notre vie, pour notre sanctification, pour notre justice. Là, il a payé tout le prix pour la vie qu'il veut nous donner. Mais c'est en même temps là où notre propre vie est donnée à Jésus. Notre propre vie est offerte à Jésus. Parce qu'avec les agneaux qui étaient offerts, un le matin et un le soir, qui symbolisaient Jésus-Christ, l'offrande de Jésus-Christ, ça dit qu'il fallait offrir aussi un dixième d'épha de fleurs de farine, pétrie, un quart de hin d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de hin de vin. Ça fait qu'avec l'agneau, il fallait offrir trois choses. Un dixième d'épha de fleurs de farine. Ces trois choses-là parlent de notre âme, parce que dans notre âme, il y a trois choses dans l'âme. Il y a nos pensées, la fleur de farine pétrie. Ça, c'est nos pensées. C'est un symbole de nos pensées. Il faut offrir nos pensées à Jésus, puis que ce soit lui et ses pensées qui viennent en nous. Il faut donner nos pensées, il faut les mettre à mort, il faut les mettre sur la croix. C'est ça que Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Porter sa croix, ça veut dire prendre mes pensées, les mettre à la croix, dire non, c'est plus mes pensées qui vivent, c'est plus mes pensées qui dominent ma vie. C'est plus avec mes pensées à moi que je me dirige. Je reçois la pensée de Christ. Je reçois la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'avec l'agneau, avec la croix de Jésus-Christ qui nous donne le salut, c'est l'héritage de l'alliance, mais une alliance, c'est toujours réciproque. Jésus a fait quelque chose pour nous, mais nous, nous avons à rentrer dans cette alliance-là. Puis comment on entre dans cette alliance-là? Par la foi, bien sûr. Mais la foi, elle s'exprime quand nous nous donnons nous-mêmes nos pensées, fleurs de farine, un quart de hin d'huile d'olive concassée. OK, l'huile d'olive, c'était une source d'énergie, OK? C'est en même temps, on sait que l'huile, c'est un lubrifiant. C'est pour mettre, quand tu mets de l'huile dans un engrenage, ça va virer souple. Ça va suivre le mouvement. L'huile d'olive, ça symbolise notre volonté. On met notre volonté, qui est notre énergie personnelle, c'est je fais ce que je veux. Mais cette volonté-là, je la mets au pied de la croix. Je la donne à Jésus. Je l'offre. En recevant Christ dans ma vie, le salut de Jésus, je mets ma volonté à ses pieds. Parce que je sais que ce n'est pas par ma volonté. Ce n'est pas ce que je veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pour recevoir sa volonté, il faut que je laisse ma volonté de côté. C'est pour ça que l'huile ici, l'huile d'olive, ça symbolise ma volonté. Et une libation d'un quart de hin de vin, qu'est-ce que ça représente le vin? On dit que quelqu'un est échauffé par le vin. Le vin symbolise nos sentiments. OK? Parce que dans l'âme, il y a les pensées, la raison, il y a notre volonté et il y a nos sentiments, nos émotions. Nos émotions, nos sentiments doivent aussi être mis, être placés à la croix avec Jésus. On doit les laisser là, les laisser mourir à la croix. Un quart de un de vin. On doit laisser cette âme-là à la croix dire, ce n'est plus mon âme qui dirige ma vie, c'est Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus mon âme, je ne dirige plus ma vie avec la force de mes raisonnements, avec ma propre volonté ou avec mes propres sentiments, ce que je ressens, mes feelings. Je ne dirige plus ma vie avec mes feelings, mais avec la pensée de Dieu, avec Christ lui-même. Christ lui-même doit diriger ma vie. Christ lui-même doit me remplir de sa pensée, de sa raison, de ses sentiments, de sa joie, de sa paix, de son amour. Ça, c'est ses sentiments à lui, les fruits de l'esprit. Puis c'est pour ça que mercredi passé, quand j'ai parlé, que les deux boucs qui étaient offerts le jour des expiations, mais ces deux boucs-là, il y en avait un qui était sacrifié, qui symbolise que notre esprit meurt avec Christ à la croix et qu'on reçoit un nouvel esprit. Puis le deuxième bouc, lui, était resté vivant. Et il était envoyé dans le désert pour mourir à petit feu. Ça, ce deuxième bouc-là, ça représente notre âme. Notre âme doit porter sa croix, doit mourir avec Christ, être envoyé dans le désert pour ne plus jamais avoir le premier mot dans ma vie. C'est ça. Quand tu l'envoies au désert, ce bouc-là, il ne refera plus jamais surface. Il ne reviendra plus. Il n'est plus sur le trône. C'est plus mon âme qui est sur le trône. Ça, c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Parce que l'holocauste perpétuel qui est mentionné ici, c'était offert soir et matin. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut que, constamment, que tu renouvelles. Il faut que tu te rappelles constamment, soir et matin, du sacrifice de Jésus-Christ, que c'est à cause de lui que tu vis. Que sans Jésus, tu ne peux pas vivre. Sans Jésus, tu n'as pas la vie. Sans Jésus, tu n'as pas de justice, tu n'as pas de sanctification, tu n'as pas de sainteté, tu n'as pas de sagesse sans Jésus. À tous les jours, soir et matin, tu t'offres aussi à Christ. Tu te donnes complètement. Tu reconnais que tu ne peux pas vivre avec ton âme maintenant. Tu ne peux plus vivre selon l'âme. Parce que vivre selon l'âme, c'est vivre selon la chair. Mais il faut que tu vives selon l'esprit. Il faut que tu vives maintenant selon l'esprit de Christ, selon la pensée de Christ. Tu dois rester toujours connecté avec l'esprit de Christ. Tu vas à la croix, tu te tiens là, tu reçois puis tu vis par son esprit. C'est la seule manière d'être agréable à Dieu, parce que sans ça, tout est vain. Si tu ne te tiens pas à l'autel, tu auras beau parler de Dieu, parce que ceux qui sont dans le parvis, ces vierges folles-là qui se tiennent dans le parvis, ils vont parler de Dieu, ils vont citer des versets de la Bible constamment, mais tu ne les entendras pas parler de la croix de Jésus-Christ, de porter sa croix avec Jésus-Christ. Tu n'entends jamais parler de ça. Ça ne sort jamais de leur bouche. Parce que la croix leur fait peur. C'est des vierges folles. Ils ont peur de la croix. Mais c'est notre vie. Si nous ne perdons pas notre vie, ça dit bien, celui qui perd sa vie va la retrouver. Pour goûter la puissance de sa résurrection, l'apôtre Paul il disait, il faut communier aux souffrances de Christ. Il faut devenir un dans sa mort. Si nous voulons devenir un dans sa résurrection, goûter à la puissance de sa résurrection dans notre vie, il faut devenir un avec lui dans sa mort. On n'a pas le choix. La communion de ses souffrances nous fait accéder à la puissance de sa résurrection. On devient un avec Jésus. Là, on rentre dans sa chambre nuptiale. On rentre avec lui. L'épouse rentre avec son époux. Ou à la croix. Mais si on ne parle pas de la croix, ça ne sert absolument à rien de parler de l'épouse et de l'époux, puis de la relation extraordinaire qu'ils ont entre l'époux et l'épouse, parce que cette relation-là ne se trouve qu'à la croix. Et si tu ne parles pas de la croix, tu es complètement en train de leurrer les chrétiens, parce que tu leur parles d'un amour qui est faux. Parce que le vrai amour de Dieu, c'est montré, c'est révélé à la croix. Là où nous-mêmes, nous sommes appelés à se donner à Jésus-Christ. C'est tellement important de tout revenir, de tout centrer à la croix. Parce que c'est là notre vie, c'est là notre source. Dans Osée 2, versets 16 à 18. Le petit prophète Osée, juste après le livre de Daniel. 2, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, ça dit « C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert. » Il parle de nous autres, il parle de l'Église. « Je veux l'attirer et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. » Dieu veut conduire son Église, Jésus-Christ veut conduire son Église à la croix, au désert. C'est la même image. À la croix ou au désert, c'est la même image. C'est la mort à soi. Pour parler à notre cœur. Là, c'est le vrai lieu de rencontre. C'est le désert, c'est la croix de Jésus-Christ. Parce que c'est là qu'il parle à notre cœur, parce que là, il n'y a plus rien qui attire, qui distrait notre âme. Parce que notre âme est distraite par les choses du monde. Notre âme est distraite par tout ce qui tourne autour. Parce qu'elle agit avec ses pensées, ses sentiments, sa volonté. Mais Dieu nous amène à une place. Il nous dit, viens à la croix. Centre tes pensées, tes sentiments, tout sur moi. Mets une fin de non-recevoir à ton âme. Conduis-la au désert. Qu'elle meure. Parce que ça dit bien au verset 17, là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. C'est où Dieu veut nous bénir? À la croix, au désert. Il veut nous parler, premièrement, il va parler à notre cœur. Ça, c'est une très grande bénédiction. Quand Dieu parle à notre cœur, c'est la première des bénédictions, qu'on puisse entendre la voix de l'époux. Si on ne tient pas à la croix, on ne l'entendra pas. Que Dieu puisse parler à notre cœur, c'est là que Dieu va manifester la puissance de sa résurrection. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Là, la puissance de la résurrection qui va nous faire sortir de l'Égypte. Une porte d'espérance. La vallée d'accord, c'est la place la plus fructueuse de tout Israël. C'est la vallée d'accord. C'est la place où l'abondance régnait. Mais Dieu dit, l'abondance est là, à la croix. C'est là que je veux te bénir. C'est là que je veux manifester la puissance de sa résurrection. Mais viens à moi, suis-moi. Suis-moi, porte ta croix. Suis-moi au désert. Tu as tout à perdre, mais tout à gagner. Quand on perd tout à Jésus-Christ, on gagne tous. Mais si on a peur de perdre quelque chose à Jésus, si on a peur de perdre notre volonté à Jésus, on risque de se faire avoir complètement. Parce que ceux qui vont avoir peur de perdre leur volonté à Jésus, ils vont être à côté. Ils vont te laisser de côté complètement. Ils ne seront même pas mesurés par Dieu. Dieu ne les considère même pas. Il dit, c'est même pas à moi celui-là. C'est grave quand Dieu dit, il ne m'appartient même pas, je ne le connais pas. C'est extrêmement grave quand tu penses à ça. Là, il dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, au verset 18, tu m'appelleras mon mari. Et tu ne m'appelleras plus mon maître. Ça, c'est le vrai époux. Hein? Où l'époux se révèle à l'épouse. Où l'épouse commence à appeler Dieu lui-même son mari, son époux. C'est où cette place-là? C'est à la croix, au désert. C'est là qu'on connaît notre époux. Que Dieu devient notre mari, notre époux. Puis qu'on commence à appeler Dieu mon mari. C'est extraordinaire que tu peux dire à Dieu, tu es mon mari. Ça veut dire que tu es celui qui va prendre soin de moi dans tous les détails de ma vie. Tu es celui qui me comble complètement. Entre tes mains, je suis sécure. Je suis entre bonnes mains. Je suis à la meilleure place. Tu deviens mon mari. Le mari, c'est la personne la plus proche de l'épouse. Mais c'est ça, Dieu veut devenir la personne la plus proche de nous. C'est extraordinaire que tu penses à ça. Mais il y a comme cette seule condition-là. Viens à l'autel. Viens, apprends à demeurer à l'autel. C'est ma gloire. C'est là que ma gloire se manifeste. C'est là qu'on peut connaître le salut glorieux, abondant, surabondant, la grâce prestigieuse de Jésus-Christ à la croix. Ça vaut à peine d'apprendre à y demeurer, d'aller là, complètement imbibé de sa présence. Parce que toutes les promesses se réalisent là. Les vierges sages, parce qu'ils avaient appris à entendre la voix de leur époux, puis parce qu'ils avaient appris à aller à la croix. Quand l'époux les a appelés à monter, eux, ils étaient prêts. Hein, ils ont été mesurés. Dieu les avait mesurés d'avance. Dieu leur avait dit, ceux-là, ils m'appartiennent. Comme dans Ézéchiel. Ils avaient marqué d'un sceau. Ça fait qu'eux autres, ils ont été épargnés de la colère de Dieu. Parce que c'est la colère qui s'en vient. Quand tu vois tout ce qui se passe dans le monde, on sait qu'on est proche de la colère de Dieu. Dieu va manifester sa colère bientôt. Mais la seule façon d'être épargné de cette colère-là, c'est d'aller à la croix. Parce qu'à la croix, c'est la seule place où la colère de Dieu est tombée sur un agneau pur et sans tache. Puis la colère de Dieu a été satisfaite. La colère de Dieu a pris sa fin à la croix. Fait que si on se tient à la croix, c'est la fin de la colère de Dieu. La colère de Dieu ne peut pas nous atteindre. Mais si on ne se tient pas à la croix, on demeure sous la colère de Dieu. Parce que la seule protection, c'est la croix. Sans ça, il n'y a pas de protection. Si je me fie sur ma propre justice, « Ah, je suis un bon chrétien, je viens à l'église tous les dimanches, je loue, je prie. » Si tu te fies juste sur ta propre justice, tu n'as aucune protection. Parce que ce n'est pas ta justice qui protège, c'est la justice de Christ. C'est là où la colère de Dieu est tombée. La colère qui aurait dû m'atteindre, elle a tombé sur Christ. Puis parce que cette colère-là est tombée sur Christ, si je m'approche de Christ par la foi, je reçois sa justice. Je reçois ce vêtement blanc dont il est parlé dans l'Apocalypse pour l'église de Laodicée. Je te conseille d'acheter de chez moi de l'or éprouvé par le feu, un vêtement blanc. Ben c'est ça, ce vêtement blanc-là, il était à la croix. C'est là que je reçois, je suis recouvert. Je reçois une nouvelle nature, puis je suis recouvert de sa justice. Je suis sécur. Parce que là, la colère de Dieu n'est plus. Quand tu tiens à la croix, il n'y a plus aucune colère. Dieu, il n'est plus en colère. C'est juste la grâce. Dieu, tu es rentré dans la grâce de Dieu. C'est là que Dieu va parler à ton cœur. C'est là que Dieu va manifester sa porte d'espérance. Ça va être, il va ouvrir tout ce qu'il t'a donné comme réma, comme espérance. Parce qu'une espérance, c'est comme une réma qu'il met dans ton cœur. Ça va se manifester. Ça va devenir logos. Ça va devenir vivant. Ça va devenir concret. La puissance de la résurrection de Christ va se manifester là. Puis un dernier verset, Ésaïe 57. Ésaïe 57, les versets 15 à 19. Qui nous parle de la condition pour aller à la croix. Qui nous parle de l'état d'esprit dans lequel nous devons être quand nous approchons de la croix. Parce que, comme j'ai dit la semaine passée, le jour des expiations est le seul jour, la seule fête parmi les sept fêtes juives où il était demandé aux enfants d'Israël de s'humilier. Parce que les autres journées, c'était des jours de fête. Ça disait de se réjouir. Mais le jour des expiations, c'était dit, il faut que tu t'humilies. C'était une image. Parce que déjà, la première fête, comme je dis mercredi passé, la première fête, ça nous parlait de la mort de Jésus. Jésus était mort, c'était notre Pâques. La Pâques, c'était la première fête juive. Jésus était mort. Mais le sixième fête, c'était le jour des expiations. Ça parle encore de la mort de Jésus, mais d'un aspect bien particulier de cette mort-là. Pour goûter à cet aspect particulier de la mort de Jésus, il fallait s'humilier, humilier notre âme. C'était comme la porte d'entrée. Parce que humilier son âme, c'est renoncer à soi-même. C'est ça. Humilier son âme, c'est dire à mon âme, prends ton trou, va-t'en dans le désert, je veux plus de toi. C'est ça, humilier son âme. Ça parle pas du corps, ça parle de l'âme. Mes pensées, mes désirs, mes sentiments, je les mets au désert. Je les mets à la croix. Je dis, vous n'avez plus droit de régner sur ma vie, vous n'avez plus droit, je ne vous laisse pas même pas vous exprimer. Maintenant, je laisse seulement Christ s'exprimer en moi. Je laisse seulement Christ régner en moi. C'est ça qu'on voit dans Ésaïe 57, les versets 15 à 19. Il y avait quelque chose de particulier aussi pour le jour des expiations. C'était pas deux agneaux qui étaient offerts comme à la Pâque, un agneau, mais c'était deux boucs, hein, des boucs. C'est l'image bouc, c'est l'image de quelqu'un qui a une tête rebelle, comme nous. C'est notre image. Qui étais-tu? Hein? Cette tête rebelle-là, notre âme qui est rebelle, il faut l'emmener à la croix. Parce qu'à la croix, elle est vaincue. À la croix, elle peut être vaincue. À la croix, Christ, si on la met à la croix, Christ va dominer. Il est le maître. On n'a pas à craindre. Il est le maître qui va complètement nous dominer. Au verset 15, ça dit, « Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faits. À cause de son avidité coupable, ça parle de la convoitise qui corrompt, c'est-à-dire la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il dit, à cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle, le bouc, a suivi le chemin de son cœur. Ça, c'était l'image de notre vie. Le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. La source de la guérison, c'est la croix de Jésus-Christ. Ça dit dans Jérémie que Dieu allait ouvrir une source abondante de paix et de guérison. Ça, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est là où la colère de Dieu est enlevée. C'est là où le rebelle que nous sommes peut trouver salut, réconfort, vie. Il dit, « J'ai vu ses voies, je le guérirai, je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. » Donc, il y a comme une humiliation à avoir avec notre âme. Une façon d'humilier notre âme, de pleurer au niveau de notre âme, qu'on s'approche de la croix, parce que là, on dit non à soi-même. Mais il y a là aussi, en même temps, une joie glorieuse qui se manifeste. Parce que quand tu te tiens là à la croix, OK, tu as le jour des explications, tu as le jour où tu vas à la croix, mais tu as aussi le jour où la puissance de la résurrection se manifeste. Parce que quand tu dis non à ton âme, à ton moi, Dieu commence à parler, Dieu commence à donner des rémons. Dieu commence à manifester par son esprit sa présence. Il commence à nous consoler. Puis il commence à nous donner une espérance. Ça commence...
Comment on va savoir qu'il a tourné à la croix?
Quel quoi?
Comment tu peux savoir que tu es tourné à la croix?
Oui.
Comment tu peux savoir que tu es à la croix? Juste par la foi. Si tu crois en Jésus, et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Fait que c'est la même chose. Tu donnes...
Le juste vivra par la foi.
Tu vis par la foi.
Le juste sera la croix. Par sa foi.
C'est par la foi aussi que tu portes la croix avec Jésus, dans le sens que tu donnes ton âme. Tu dis, Seigneur, je reconnais que je ne peux plus vivre avec mon âme. Je reconnais que je ne peux plus diriger ma propre vie comme mes pensées veulent, comme mes sentiments veulent, comme ma volonté. Je te donne tout ça. C'est un échange. Parce qu'une alliance, c'est ça, une alliance, c'est un échange. Fait que Jésus a fait une alliance avec nous, il a donné sa vie pour nous, puis nous autres, en retour, on ne peut pas donner notre vie dans le sens de mourir à notre tour pour Jésus physiquement, même si peut-être on est peut-être appelé à mourir physiquement, mais ce que Dieu demande, c'est notre cœur, c'est notre âme. Il veut qu'on donne notre esprit. Quand on vient à Jésus, on donne cet esprit, on accepte que Jésus vienne à notre vie. Mais si on accepte que Jésus vienne à notre vie, c'est parce qu'on accepte aussi que notre esprit meurt avec Jésus. Puis cette journée-là qu'on a accepté Jésus, notre esprit est mort avec Jésus et on reçoit un nouvel esprit. C'est comme ça qu'on naît de nouveau. Cette nouvelle naissance-là se fait par la foi parce que le Saint-Esprit a créé en toi un désir de t'approcher de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui crée ce désir-là en nous. Puis c'est l'Esprit de Dieu qui crée la foi, qui nous donne la foi de croire que là, à Jésus, c'est ta vie. Là, à Jésus, si tu viens à Jésus, tu as la vie éternelle. C'est la même chose après pour notre âme, de porter sa croix. C'est encore par la foi. Oui.
OK. Quand j'étais chrétien, tu marchais, tu savais que moi, je suis chrétien, j'allais à l'église, je fais tout, des affaires des églises, mais je ne savais pas que j'étais retiré à quoi. Quand même, qu'est-ce qui... Il va me montrer encore que j'ai tourné à quoi.
C'est ça. C'est parce que, tu vois, là, tu mentionnes quelque chose, nous autres même, pendant longtemps, on était comme un peu aveuglés par notre propre justice. On pensait que le simple fait de prier, d'aller à l'église, de faire toutes ces bonnes choses-là, ça nous justifiait devant Dieu. C'est comme un aveuglement. C'est un aveuglement qui est tombé sur l'église. Parce que ça dit bien aux vierges, les vierges folles puis les vierges chères, ça dit qu'ils sont toutes tombées dans un sommeil. Là, il y a un cri. Réveillez-vous! Mais le cri, c'est quoi? C'est d'abord retourner à la croix. C'est le cri. Moi, je crois que Dieu est en train de faire entendre un cri dans le monde aujourd'hui. Puis ce cri-là, c'est retourner à la croix. C'est l'expiation de Jésus. Il y a un livre qu'on aime beaucoup qui s'appelle Les anges en mission. Il y a un monsieur, un pasteur, M. Roland Book des États-Unis qui a été visité à toutes les 2-3 semaines, qui a été visité par des anges. L'archange Gabriel, l'archange Michel, sont tous venus. Cet homme-là aujourd'hui est mort, mais il a écrit un livre, les visitations que Dieu a données. Sont les messages des anges, un après l'autre, ça a duré pendant des années, c'était un message, expiation. Il dit, c'est le message, l'expiation, c'était le message que les anges venaient dire, c'est le message pour l'Église à la fin des temps, c'est l'expiation. Vous devez retourner à l'expiation. C'est le cri, Dieu réveille. Parce que là, on est comme aveuglé. On pense que parce qu'on jeûne, parce qu'on prie, qu'on cherche Dieu, là, on est agréable à Dieu. On cherche Dieu. Mais Dieu dit, c'est bien que tu me cherches, mais il faut que tu reconnaisses que la seule manière de m'atteindre, c'est au travers de la croix. Tu ne pourras jamais m'atteindre à force de prier. Mais si tu tiens à la croix, si tu demeures là, si tu pries avec l'esprit de la croix, avec la foi qui est dans la croix, là, ça devient... Là, moi, je réponds. Fait que, à quelque chose, à quelque part, notre propre justice, ça devenait une forme d'orgueil, une forme de dire, moi, je suis content, je suis correct en moi-même. Là, tu sais, je prie, je suis un bon chrétien. Mais non. Quand tu viens à la croix, il n'y a plus rien de cette propre justice-là qui reste, parce que là, tu n'es rien. Tu n'es absolument rien. C'est Jésus qui te sauve. C'est Jésus qui te recouvre de sa justice. C'est Jésus qui te sanctifie. C'est Jésus qui t'achagit. C'est Jésus qui va te racheter. Il rachète notre âme, puis un jour, l'enlèvement, il va racheter notre corps. C'est ce que l'apôtre Paul dit. L'enlèvement, c'est le jour où que Dieu, ou que Jésus vient racheter notre corps. Le corps est transformé en un instant. Mais la gloire de Jésus descend sur notre corps. Puis là, nous sommes enlevés ensemble dans les nuées à la rencontre de notre Seigneur. Mais c'est vraiment, ce message de la croix est tellement important.
L'Église, elle l'a oublié.
L'Église a oublié.
Ça fait aussi des chrétiens qui ne sont pas solides, qui ne sont pas centrés sur la seule vérité qu'on doit avoir. C'est Christ crucifié. Oui. Parce que justement, on leur prêche un autre évangile. Oui. Quand ils arrivent, même si Dieu les touche, ils ont une expérience avec Dieu, mais ils ne sont pas nécessairement à Dieu. Ils sont touchés par Dieu, mais ils ne sont pas nécessairement convertis. C'est pour ça qu'il faut retourner au message, puis il faut dire aux églises, retournez à la croix. C'est là que ça commence et c'est là que ça finit.
C'est ça. C'est pour ça que Dieu va faire entendre son cri, parce que nous autres mêmes, on était dans cette propre justice-là. Fait que Dieu a eu compassion de nous, parce qu'il nous a, il a permis des brisements dans notre vie. Parce que ça dit bien, je suis avec l'homme contrit et humilié. Il a permis toutes sortes d'épreuves pour nous briser. Et là, parce qu'il y a encore un peu de propre justice, d'aveuglement. Mais les épreuves font qu'on revient à la croix. Tranquillement, on est revenu à la croix. Puis on a dit, ben écoute, Seigneur, j'ai jeûné comme un fou. Puis tu ne me réponds pas. Mm. Puis il m'arrive des épreuves à la place. Es-tu contre moi? Puis là, le Seigneur dit, non, je ne suis pas contre toi, mais je veux seulement que tu reviennes à la croix. Parce que c'est là ta justice. C'est là qu'on trouve notre réconfort. Puis c'est pour ça que c'est important, ce message-là, qu'on le transmette à l'Église. Qu'on réveille l'Église avec ce message-là. Parce que c'est ça qui se passe, même à Oasis, depuis que tu as été en avant, tu as commencé à parler de la croix. Les gens commencent à parler de la croix. Ouais. Ça commence à les réveiller.
On la décide même, ces murs.
Puis là, il se passe quelque chose, parce que la croix, ça touche une corde sensible. On sait qu'on a été sauvés là. Mm. On peut pas la renier, cette croix-là. Fait que même si on est un peu aveuglé à cause de notre orgueil, quand on nous parle de la croix, il y a quelque chose, ben oui, c'est vrai, là, c'est la base de mon salut. Là. Mm. Je peux pas m'éloigner de ça, c'est à cause de la croix de Jésus-Christ que je suis sauvé. Mm-hmm. Fait que veux pas, on revient, mais le Seigneur, il veut plus qu'on ait juste une pensée une fois de temps en temps qu'on est sauvé à cause de Jésus-Christ. Mm-hmm. Il veut qu'on demeure là.
Qu'on la porte
à tous les jours. Avec lui. Parce que là, c'est notre vie, puis c'est quelque chose, comme Paul dit, portant jour après jour, la croix, la mort de Jésus-Christ dans mon corps. Mm-hmm. C'est quelque chose à tous les jours. Mais c'est le secret aussi pour marcher dans la puissance de sa résurrection. Parce que Paul dit, la mort agit en moi, mais la vie aussi agit en moi. Ça veut dire quand tu te tiens là, oui, tu expérimentes la mort au niveau de ton âme, mais tu expérimentes aussi la vie de Jésus. La puissance de résurrection, Jésus parle, il parle à notre cœur. L'espérance est là. Fait que là, c'est comme... Mais si c'est pas ce message-là de la croix qui est prêché... Même si on parle de l'époux ou de l'épouse, mais le lieu nuptial, le lieu de rencontre, c'est la croix. Mm. Si on ne parle pas de la croix, on vient de parler en vain de l'épouse et de l'épouse, de l'amour que l'un et l'autre doivent avoir l'un pour l'autre. Là. C'est complètement vain. Mm. Ça devient comme de la propre justice de chrétiens qui ça que je disais, nous sommes le temple de Dieu, mais les vierges folles aussi, ceux qui tiennent dans le parvis, là, ils sont le temple de Dieu. Ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont accepté Jésus, ils ont donné nouveau. Fait qu'ils sont, ils peuvent dire aussi qu'on est le temple de Dieu. Mm-hmm. Mais c'est pour ça que je disais, la chambre nuptiale où Dieu se fait connaître, c'est vraiment la croix. Ça ne suffit pas de dire « je suis le temple de Dieu ». C'est comme Jérémie a mané ça dans Jérémie chapitre 17, il dit « dites pas, c'est ici le temple. Mm. » En pensant que Dieu, la colère de Dieu ne viendra pas sur cette place-là, sur Jérusalem, parce que c'est ici le temple. Donc Dieu ne peut pas envoyer sa colère. Mm-hmm. Il dit non. Il dit Dieu va envoyer sa colère ici à Jérusalem, puis il va détruire cette ville-là. Mm-hmm. C'est le prophète Jérémie, il disait ça au peuple d'Israël.
Le fameux temple.
Puis c'est la même chose. L'Église aujourd'hui, elle dit je suis le temple. Non. C'est pas parce que tu as accepté Jésus un jour là, que tu es le temple. Tu es vraiment. La chambre, la place nuptiale où Dieu vraiment se fait connaître, là, personnellement. Et où, c'est comme, oui, il veut qu'on rentre dans le parvis, parce que si on ne rentre pas dans le parvis, on ne peut pas aller à la croix non plus. Là. Ça veut dire que c'est vrai qu'il faut rentrer dans le parvis, mais il ne faut pas rester dans le parvis. Dieu nous appelle à la croix, à l'autel. Parce que c'est l'endroit de rencontre, l'autel. C'est la place privilégiée, puis la seule place que vraiment un chrétien se dépouille de lui, puis commence à être revêtu de Jésus. C'est comme... C'est la place de nuptiale, puis c'est pour ça que c'est si important, cette croix-là, c'est plus que simplement avoir Jésus dans sa vie, là, comprends-tu? C'est vraiment la différence entre la Vierge sage et la Vierge folle. C'est celui qui va... Plus que simplement d'avoir Jésus, c'est vraiment aller à la croix puis demeurer là. Il va apprendre à demeurer là. Puis Dieu appelle vraiment l'Église aujourd'hui à recevoir ce message-là puis à le mettre à le pratiquer dans sa vie. Là. Parce que c'est proche. Là, c'est comme... On est proche, on est avancé dans le temps de Dieu. Dieu permet ça pour ramener son épouse là où elle devrait être, à la croix. Parce que si elle se tient juste dans le parvis, elle n'est même pas mesurée dans les termes, dans les yeux de Dieu.
Il y a un esprit d'égarement.
Elle n'existe même pas. C'est pour ça que ça dit aussi, 2 Pierre 1,4, ça dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu. Et celle-ci, sa divine puissance, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, ces promesses-là, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il y a comme une condition. Fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La fuite, fuir la corruption qui existe dans le monde, c'est justement envoyer notre âme au désert, la faire mourir. Dire, c'est plus... Parce que si je ne fais pas mourir mon âme, c'est le monde qui va prendre, qui va m'avoir. Parce que le monde, lui, vient de l'extérieur, puis il agit au niveau de mon âme. Il ne peut plus agir au niveau de mon esprit est régénéré par Jésus-Christ. Mais il peut agir au niveau de mon âme. Puis lui, il va agir dans mes pensées, dans mes sentiments, mes volontés. Il va essayer de me corrompre à travers mon âme. Puis c'est pour ça que mon âme, j'ai une seule solution, c'est de me tenir à la croix. Parce qu'à la croix, je la fais taire, je la fais mourir. Je dis non, je renonce à toi. Fait qu'en renonçant à mon âme, le monde n'a plus aucun pouvoir sur moi. Paul, il dit, je me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi.
Comme
moi, je suis pour le monde. Ça veut dire, à la croix, j'ai la victoire sur le monde. Parce qu'à la croix, je fais taire mon âme. Donc, en faisant taire mon âme, en le renouvelant avec la parole de Dieu, parce que c'est ça, la parole de Dieu, c'est ça qui va renouveler mon âme. Mon âme, je vais la remplir avec la parole de Dieu. T'sais, si je la fais taire, ça devient comme un récipient vide, mais là, Dieu va la remplir, lui, avec sa parole. Je fais fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est comme ça que, justement, je permets à la promesse divine de s'accomplir, puis je deviens participant de la nature divine. Ça veut dire que je deviens un avec Jésus. Participant, ça veut dire une part. Je deviens un avec Jésus. Je m'unis avec Jésus-Christ. Puis en même temps, je fais fuir le monde. Le monde n'a plus aucun pouvoir sur moi. Amen. C'est la mesure de la croix. La mesure, comment que Dieu veut nous avoir.
C'est le seul roseau.
Que Dieu veut nous avoir là parce que c'est notre richesse, c'est notre trésor, c'est notre salut. Notre délivrance, c'est notre gloire. C'est la place aussi que Dieu, ceux qui se tiennent là, ils vont être comptés comme siens, regardés comme siens. On a le poids à ses yeux.